Chapitre 45. Une réunion. Elaine se réveilla dans son lit, l'esprit embrumé.
Egwene,
dit-elle.
Que s'est-il passé?
Les ultimes lambeaux du rêve fondaient comme du miel dans une infusion bien chaude. Mais le message envoyé par Egwene restait très net dans son esprit.
Le serpent est tombé. Ton frère est revenu au moment précis où il le fallait.
Elaine s'assit dans son lit et soupira de soulagement. Toute la nuit, elle s'était acharnée à canaliser assez pour que son terrangréal onirique fonctionne, sans aucun résultat. Apprenant que Birgit avait barré le chemin à Gawain alors qu'elle bouillait de rage de ne pas pouvoir honorer son rendez-vous avec Egwene, la jeune reine avait pâli. Cela dit, Messana était vaincue, une excellente chose. Et Gawain, qu'était-il devenu? Avec un peu de chance, Egwene et lui auraient résolu leurs problèmes. La lumière du jour filtrait des tentures. Elaine s'adossa au mur et savoura la douce chaleur qui se déversait via son lien avec Rand. Quelle délicieuse sensation! À l'instant où elle l'avait éprouvée, la couverture nuageuse au-dessus du royaume s'était volatilisée. Une semaine s'était écoulée depuis la démonstration d'Aludra avec ses dragons. Convaincue, Elaine avait mobilisé tous les fondeurs de cloches du pays pour qu'ils se lancent à fond dans la fabrication des armes. Ces derniers jours, on entendait des sons étranges monter autour de Kaemlyn, sans doute parce que des bras rouges s'entraînaient avec les dragons dans les collines environnantes. Jusque-là, Elaine disposait de très peu d'armes pour les exercices. Afin de s'entraîner, les différentes équipes devaient s'organiser par rotation. Prudente, Elaine avait fait entreposer les autres dragons dans un bâtiment très sûr, au cœur de Kaemlyn. Elaine repensa soudain à son rendez-vous raté avec Egwene et au message assez énigmatique. Il fallait qu'elle en sache plus long. Mais si tout se passait bien, Egwene lui enverrait un messager via un portail. La porte s'entrebâilla et Melfan passa la tête dans la pièce.
« Majesté, tout va bien ?»
demanda la petite femme au visage rond.
« J'ai cru entendre un cri de douleur. »
Même après qu'elle eut levé la sentence d'Elaine, condamnée à garder le lit jusqu'à ce que dépression s'ensuive, la redoutable sage-dame avait décidé de dormir dans l'antichambre, histoire d'avoir toujours un œil sur sa protégée.
« C'était un cri de joie, Melfan, »
rectifia Elaine.
« Des remerciements pour la merveilleuse matinée qui nous est offerte. »
Melfan fronça les sourcils. En sa présence, Elaine s'efforçait à paraître enthousiaste, pour éloigner d'elle le spectre du repos au lit. Mais là, elle avait peut-être poussé le bouchon un peu loin. Même si elle se forçait à paraître heureuse, elle ne devait surtout pas le laisser voir.
« Melfan, tu es un insupportable garde-chiourme. »
La sage-femme alla ouvrir les rideaux. Le soleil, avait-elle expliqué, était très sain pour les femmes enceintes. Une bonne partie du traitement de la jeune reine, ces derniers temps, avait consisté à rester dans son lit, les couvertures tirées, laissant le soleil du printemps réchauffer sa peau. Alors que Melfan s'affairait, Elaine sentit une vibration infime au plus profond de son corps.
« Oh, encore un ? Il donne des coups de pied, Melfan. Viens sentir ça.
J'en serais bien incapable, Majesté. C'est encore trop tôt. »
La sage-femme passa à l'examen quotidien. D'abord les battements du cœur de sa patiente, puis ceux de ses bébés. Jusque-là, elle refusait de croire à la présence de jumeaux. Ce rituel accompli, elle procéda à toutes les sortes d'examens possibles et imaginables. Une longue série de bizarreries, le plus souvent embêtantes, voire embarrassantes. Enfin, les poings sur les hanches, elle regarda Elaine, qui remontait sa chemise de nuit.
« Vous vous êtes encore surmené ces derniers jours. J'insiste sur la nécessité de vous reposer correctement. Il y a presque 2 ans, ma cousine Tess a eu un bébé qui ne respirait presque pas à la naissance. Il a survécu, la lumière en soit louée, mais cette inconsciente avait travaillé au champ la veille et omis de se nourrir convenablement. Prenez soin de vous, Majesté. Vos bébés vous en remercieront. »
Elaine acquiesça, un peu plus détendue.
« Un instant !»
s'écria-t-elle soudain.
« Tu as dit « vos bébés » ?»« Oui, »
fit Melfan en se dirigeant vers la porte.
« Aussi sûr que j'ai 2 bras, il y a 2 cœurs dans votre ventre.
Je ne comprends pas comment vous le saviez. »«
Tu as entendu leur cœur ?»«
Oui, ils sont là, aussi sûrement que le soleil est dans le ciel. »
Melfan sortit, laissant Naris et Séphanie habiller la reine et brosser ses cheveux. Elaine subit cette épreuve dans un état second. Melfan était enfin convaincu. De quoi sourire toute la journée. Une heure plus tard, la jeune reine s'installa dans son petit salon, toutes les fenêtres ouvertes pour laisser entrer le soleil. Alors qu'elle sirotait du lait de chèvre, Maître Nori entra, son célèbre dossier de cuir sous un bras. Dailin l'accompagnait. Étrange, parce qu'elle n'assistait en principe pas à la réunion matinale. Elaine l'interrogea du regard.
« J'ai l'information que tu voulais, »
dit-elle, en se servant une tasse d'infusion spéciale matin, à la mûre aujourd'hui.
« J'ai cru comprendre que Melfan a entendu des pulsations cardiaques. »«
Pour sûr que oui !»«
Félicitations, votre majesté, » dit Maître Nori.
Il ouvrit son dossier de cuir et entreprit de disposer des documents sur la table étroite et haute de la reine. Devant elle, il s'asseyait rarement. Dailin, elle, prit un des autres sièges placés devant la cheminée. Quelle information lui avait donc demandé Elaine? Même en insistant, elle ne s'en souvenait pas. Cette question lui occupa l'esprit pendant que Nori récitait son rapport sur les diverses armées présentes dans le secteur, avec la liste habituelle d'attarcations entre les compagnies de mercenaires. Nori aborda aussi la question de la nourriture. Malgré les portails ouverts par les femmes de la famille, vers les royaumes du sud de Rand, d'où arrivaient des provisions, et en dépit des réserves découvertes en ville, Kemlin restait menacé par la disette.
« Enfin, en ce qui concerne nos invités, des messagers sont arrivés avec les réponses que nous attendions. »
Aucune des trois maisons dont certains membres avaient été capturés ne pourrait payer une rançon. Naguère, les domaines Aron, Sarand et Marne comptaient parmi les plus prospères du pays. Aujourd'hui, ils étaient dévastés, leurs champs nus et leurs coffres vides. Et Elaine en laissait deux sans dirigeant. Lumière, quelle pagaille! Nori continua. Une lettre de Talmanès attestait que la compagnie de la Main Rouge enverrait plusieurs unités aux Kairiennes. Elaine ordonna à Maître Nori d'expédier un mot revêtu de son sceau autorisant les soldats à participer à la restauration de l'ordre. Bien entendu, c'était absurde. Aucun ordre n'avait besoin d'être restauré. Mais si Elaine voulait s'approprier le trône du soleil, elle devait commencer par là.
« C'est de ça que je veux parler, Elaine, »
intervint Dailin. Nori entreprit de récupérer ses documents, les classant avec un soin maniaque. Si une de ces précieuses feuilles était froissée ou tachée, que la lumière veuille bien protéger le monde.
« Ok, Rienne, la situation est complexe, »
commença Dailin.
« Quand ne l'est-elle pas? Tu as des informations sur le climat politique ?»« C'est n'importe quoi, »
répondit simplement Dailin.
« Nous devons parler de ton projet de diriger deux nations, dont une en ton absence. »«
Nous avons des portails, »
rappela Elaine.
« Exact. Mais tu dois trouver un moyen de prendre le trône du soleil sans donner l'impression qu'Andorre entend placer le Kairien sous son joug. Les nobles t'accepteront peut-être comme reine, mais à condition de se sentir les égaux des Andoriens. Sinon, dès que tu leur tourneras le dos, les complots gonfleront comme un morceau de levure dans un bol d'eau chaude.
« Ils seront les égaux des Andoriens, »
affirma Elaine.
Si tu y vas avec ton armée, ils ne verront pas les choses ainsi. Les Kyrieniens sont un peuple très fier. S'ils croient vivre sous occupation andorienne,
ils ont bien vécu sous le règne de Rand.
Avec tout le respect que je te dois,
fit Dailin.
Lui, il est le dragon réincarné, pas toi.
Elaine se rembrunit, mais qu'opposée à un tel argument. Maître Nori s'éclaircit la gorge.
Votre Majesté, l'analyse de Dame Dailin n'est pas un tissu de spéculation. J'ai, entendu des choses, sachant votre intérêt pour le Kairien.
Nori devenait de plus en plus doué pour collecter des informations. Elaine l'avait transformé en un espion d'élite.
Majesté, continua-t-il, baissant le ton, des rumeurs prétendent que vous vous emparerez bientôt du trône du soleil. Dans la capitale, on parle déjà de sédition contre vous. Là, il s'agit sans doute de spéculation, mais...
Les Kyrieniens voient Randaltor comme un empereur,
intervint Dailin.
Pas comme un roi étranger. Toute la différence est là.
Pour prendre le trône, nous n'aurons pas besoin d'armée,
dit Elaine, pensive.
Sur ce point, je ne serai pas affirmatif, Majesté,
précisa Nori.
Les rumeurs vont toutes dans le même sens. Dès que le Seigneur Dragon a annoncé que le trône vous reviendrait, des factions se sont mises à œuvrer, très subtilement, pour que ça n'arrive pas. À cause de ces rumeurs, bien des gens redoutent que vous dépouilliez les Kyrieniens de leur titre de noblesse pour les distribuer à des Andoriens. D'autres prétendent que tous les Kyrieniens deviendront des citoyens de seconde zone.
Grotesque !
S'exclama Elaine.
C'est ridicule !
À l'évidence, convint Nori. Mais les rumeurs grandissent sans cesse, Majesté. Elles envahissent tout, comme du lierre grimpant. Les craintes sont puissantes.
Elaine serra les dents. Très bientôt, le monde serait un endroit vivable uniquement pour qui disposerait de solides alliances, scellées par le sang au moins autant que par les traités. Dans l'histoire, aucune reine n'avait eu une telle chance d'unifier Andorre et le Kaerien.
Savons-nous qui a lancé ces rumeurs ?
Ce fut très difficile à déterminer, Majesté.
Qui en bénéficie le plus ?
Insista Elaine.
Où devons-nous chercher la source première ?
Nori coula un regard à Dagilin.
Beaucoup de gens peuvent en bénéficier,
dit la noble dame en remuant son infusion.
Je dirais que les autres candidats au trône sont probablement ceux qui ont le plus intérêt à les répandre.
Donc ceux qui ont résisté à Rand.
Avança Elaine.
Peut-être, oui. Ou peut-être pas. Les rebelles les plus déterminés ont fait l'objet de l'attention du dragon, la plupart ayant été convaincus ou brisés. En conséquence, ses alliés, ceux à qui ils se fient le plus ou qui l'assurent de leur loyauté, sont les principaux suspects. Nous parlons de Kaerien, après tout.
Daes Daemar. Oui, il serait assez logique que les alliés de Rand s'opposent à l'accession au trône d'Elaine. Car si elle échouait, l'un de ceux que le dragon tenait en estime aurait une grande chance de ceindre un jour la couronne. Cela dit, ces gens auraient en même temps hypothéqué leur chance en jurant fidélité à un dirigeant étranger.
Je dirais,
fit Elaine,
que les favoris pour obtenir le trône sont entre les deux extrêmes. Des gens qui ne se sont pas opposés à Rand, s'épargnant ainsi son courroux. Mais aussi ceux qui ne l'ont pas soutenu avec enthousiasme. En somme, des patriotes qui pourront faire mine d'accepter le pouvoir à contre-cœur après mon échec.
Elaine dévisagea ses deux interlocuteurs.
Trouvez-moi les noms des nobles qui ont gagné en influence ces derniers temps. Puis sélectionnez le seigneur ou la dame qui correspondra à tous les critères.
Dagelin et Nori hochèrent la tête. Au bout du compte, Elaine devrait sans doute créer un meilleur réseau d'espions, car aucun de ces deux-là n'était vraiment fait pour ce genre de travail. Nori n'était pas assez dissimulateur, et ses autres tâches l'occupaient déjà trop. Dagelin, elle... Eh bien, à son sujet, Elaine n'était sûre de rien. Elle lui devait beaucoup, d'autant plus que cette femme se comportait avec elle comme une mère de substitution. La voix de l'expérience et de la sagesse. Mais tôt ou tard, elle devrait s'éloigner un peu. Sinon, on finirait par penser que Dagelin était le véritable pouvoir caché derrière le trône. D'accord, mais sans elle, qu'aurait donc fait Elaine ? La jeune reine dut résister au flot de sentiments qui menaçaient de la submerger. Par le sang et les cendres, quand en aurait-elle fini avec ces maudites sautes d'humeur ? Une reine ne pouvait pas pleurnicher pour un oui ou un non. Elaine se tamponna les yeux et Dagelin s'abstint de tout commentaire.
« Tout se passera bien, »
dit Elaine, pour détourner l'attention de ses yeux humides.
« En revanche, je m'inquiète toujours au sujet de l'invasion. »
Dagelin ne dit rien sur ce sujet. Pour sa part, elle doutait que Chesma allait parler spécifiquement d'une invasion du royaume d'Andorre. Très probablement, elle faisait allusion aux Trollocs qui s'en prenaient aux terres frontalières. Birgit jugeait cette histoire plus alarmante. Du coup, elle massait des soldats le long de toutes les frontières du royaume. Malgré cette précaution, Elaine était impatiente de prendre le contrôle du Kaerien. Si les Trollocs devaient déferler sur Andorre, le royaume voisin serait un des boulevards qu'ils risquaient d'emprunter. Interrompant la conversation, la porte donnant sur le couloir s'ouvrit. Sentant que c'était Birgit, Elaine évita de sursauter sur son siège. La championne ne frappait jamais. Une épée lui battant la hanche, elle avait dû se résoudre à en porter une, elle avait comme d'habitude fourré son pantalon dans ses bottes montantes. Bizarrement, deux silhouettes encapuchonnées la suivaient, le visage invisible dans les ombres. Nori recula d'un pas et porta une main à son cœur, tant une telle entorse au protocole le choquait. Tout le monde savait qu'Elaine n'aimait pas recevoir de visite dans le petit salon. Si Birgit y amenait des gens...
« Matt ?»
devina Elaine.
« Raté !»
lança une voix familière, très ferme et très claire. Le plus grand des deux visiteurs abaissa sa capuche, révélant un visage masculin d'une parfaite beauté. Cette mâchoire carrée et ses yeux intenses, Elaine les avait vus tout au long de son enfance, en particulier quand leur propriétaire la surprenait à faire une bêtise.
« Galad !»
s'écria-t-elle, surprise d'éprouver tant de tendresse pour son demi-frère. Elle se leva et lui tendit la main. Durant leur enfance, Galad avait toujours réussi à l'agacer pour une raison ou pour une autre.
mais le revoir vivant et en pleine forme était une joie.
« Où étais-tu donc ?»«
Je cherchais la vérité, » répondit Galad. Il se fendit d'une révérence parfaite, mais n'approcha pas pour prendre les mains de sa demi-sœur. Quand il se redressa, il évita son regard.
« Et j'ai trouvé ce que je n'attendais pas. Accroche-toi bien, ma sœur. »
La deuxième silhouette abaissa sa capuche. « La mère d'Elaine. » La jeune reine poussa un petit cri. C'était bien elle, ce visage, ses cheveux dorés, et ses yeux qui s'étaient si souvent posés sur elle pour l'évaluer et la juger, pas à la façon dont une mère estime la valeur de sa fille, mais à celle d'une dirigeante qui étudie la femme qui lui succédera. Elaine sentit son cœur s'emballer. Sa mère était vivante. Morgaz revenait, la reine n'était pas morte. Morgaz chercha le regard de sa fille, puis, très curieusement, elle baissa les yeux.
« Votre Majesté, »
dit-elle en s'inclinant et sans avancer dans la pièce. Elaine contrôla ses pensées et tenta de juguler sa panique. Elle était la reine, enfin, elle aurait pu l'être, ou Lumière. Elle avait pris le trône et restait au minimum la fille héritière. Mais voilà que sa mère revenait de parmi les fichus morts.
« Je t'en prie, assieds-toi, »
dit Elaine, en désignant à Morgaz le siège flanquant celui de Dailin. Regardant la noble dame, elle constata, un peu soulagée, qu'elle encaissait le choc aussi mal qu'elle. Les phalanges blanches, sur sa tasse d'infusion, elle écarquillait les yeux, comme si elle venait de voir un fantôme.
« Merci, Majesté, »
dit Morgaz en avançant. Galad fit de même, et en profita pour poser une main sur l'épaule d'Elaine, histoire de la réconforter. Puis il alla se chercher un siège à l'autre bout de la pièce. Le ton de Morgaz était plus réservé que dans les souvenirs d'Elaine. Et pourquoi continuait-elle à donner du majesté à sa fille? La reine était venue en secret, capuche relevée. Dévisageant sa mère, Elaine commença à assembler les pièces du puzzle.
« Tu as renoncé au trône, c'est ça ?»
Morgaz acquiesça.
« Que la lumière soit louée !»
s'écria Dagelin.
« N'y vois aucune offense, Morgaz. Mais un instant, j'ai imaginé une guerre entre deux Trakandes. Nous n'en serions pas arrivés là, »
dit Elaine. Presque en même temps, sa mère prononça des mots très semblables. Puis leurs regards se croisèrent et Elaine s'autorisa à sourire.
« Nous aurions trouvé un arrangement raisonnable. Cela dit, je me demande quand même ce qui a bien pu se passer. « Les capes blanches me détenaient, »
expliqua Morgaz.
« Le vieux Pedron Nial était sous bien des aspects un gentilhomme, mais pas son successeur. Et pas question que je le laisse m'utiliser pour nuire à Andorre. « Maudit fils de la lumière !»
marmonna Elaine entre ses dents. Donc, ces sales types disaient la vérité quand ils prétendaient détenir la reine d'Andorre. Galad regarda sa sœur, puis arqua un sourcil. Posant le siège qu'il était allé chercher, il ouvrit son manteau pour dévoiler son uniforme blanc orné d'un soleil sur la poitrine.
« Oui, j'avais oublié !»
grommela Elaine, agacée.
« Ça me sort toujours de l'esprit, et c'est une bénédiction. »
« Les fils connaissent bien des réponses, ma sœur. »
dit Galad en s'asseyant. Qu'il pouvait être pompeux. Le revoir était un plaisir, mais il n'avait pas changé d'un iota. Un vrai casse-pied.
« Je refuse de polémiquer, »
dit Elaine.
« Combien de capes blanches as-tu avec toi ?»«
Tous les fils m'ont accompagné en Andorre. C'est normal, puisque je suis leur seigneur général. »
Elaine sursauta, puis elle jeta un coup d'œil à Morgaz, qui confirma d'un hochement de tête.
« On dirait que j'ai des choses à rattraper. »
fit la jeune reine. Prenant ces mots pour une motivation, depuis toujours il était très littéral, Galad commença à expliquer comment il était arrivé à ce poste. Friand de détails, il prit son temps. S'ennuyant un peu, Elaine regarda plusieurs fois sa mère, dont les traits restèrent de marbre. Quand il en eut terminé, Galad voulut en savoir plus sur la guerre de succession. Avec lui, les conversations étaient souvent ainsi, un dialogue protocolaire, sans rien d'intime. Jadis, Elaine en était hors d'elle. Là, après avoir découvert qu'il lui avait manqué, une authentique surprise, elle prenait un certain plaisir à ces échanges d'informations. Au bout d'un moment, la conversation cessa. Il restait des sujets importants, mais Elaine brûlait d'impatience de s'entretenir avec Morgaz.
« Galad, »
dit-elle,
« nous avons encore des milliers de choses à nous dire. Que penseras-tu d'un dîner, pas trop tard ce soir? En attendant, tu pourrais aller te détendre un peu dans tes anciens quartiers. »
Le jeune homme hocha la tête et se leva.
« Je souscris à ce programme. »«
Dagelin, maître Nori, le retour de ma mère pose certains problèmes délicats. Il faudra rendre public son renoncement au trône, et ce le plus vite possible. Maître Nori, à vous de rédiger le document. Nagelin, veux-tu bien informer de ce rebondissement mes plus proches alliés? Je détesterais qu'il soit pris par surprise.
Nagelin acquiesça, puis elle regarda Morgaz. Quand la reine était sous l'influence de Ravine, la noble dame n'avait pas compté parmi les gens qui en souffraient d'une manière ou d'une autre. Mais elle avait entendu bien des histoires, évidemment. Avec Galad et Nori, elle se retira promptement. La porte refermée, Morgaz jeta un coup d'œil à Birgit.
« J'ai confiance en elle comme en une sœur, mère, »
dit Elaine.
« Une sœur aînée agaçante au possible, mais une sœur quand même. »
Morgaz sourit. Puis elle se leva, prit les mains de sa fille, l'aida à se mettre debout et la serra dans ses bras.
« Ma chérie, »
dit-elle, des larmes aux yeux.
« Regarde ce que tu as réussi. Devenir reine à la force des poignets. Tu m'as bien préparée, mère. »
Elle recula d'un pas.
« Et tu seras bientôt grand-mère. »
Morgaz plissa le front et baissa les yeux sur le ventre de sa fille.
« Oui, c'est ce que je me suis dit en te voyant. Qui est le père ?»
acheva Elaine en rougissant.
« C'est Rand. Très peu de gens le savent, et j'aimerais que ça ne change pas. » « Rand Altor, »
fit Morgaz soudain maussade.
« C'est... »
Elaine prit les mains de sa mère.
« Mère, c'est un homme de bien, et je l'aime. Ce que tu as entendu, ce sont des exagérations ou des rumeurs malfaisantes. Mais il... Elaine, c'est un homme capable de canaliser. Le dragon réincarné. Oui, mais un homme quand même.
Tout au fond de son esprit, Elaine sentait le nœud d'émotion qui était... Rand.
Simplement un homme. Malgré tout ce qui pèse sur ses épaules.
Morgaz pinça les lèvres, l'air mal à l'aise.
Je dois réserver mon jugement. Mais en un sens, je continue à penser que j'aurais dû faire jeter ce garçon en prison, à l'instant même où nous l'avons trouvé fouinant dans les jardins. Dès cette époque, je n'aimais pas la façon dont il te regardait.
Elaine sourit et désigna les fauteuils. Morgaz s'assit et sa fille, cette fois, prit place à côté d'elle, sans lui lâcher les mains. Via le lien, elle sentit de l'amusement chez Birgit, toujours adossée au mur du fond, une jambe pliée pour que la semelle de sa botte repose contre le mur lambrissé.
« Quoi ?»
lui demanda Elaine.
« Rien du tout. Il est agréable de vous voir agir comme mère et fille, ou au moins comme deux êtres humains, au lieu de vous regarder en chien de faïence. « Elaine est la reine !»
fit Morgaz très sèchement.
« Sa vie appartient à ses sujets, et mon retour risquait de perturber la succession. Ça reste délicat, mère. Ta réapparition peut rouvrir de vieilles blessures. Je devrais m'excuser. Peut-être même offrir des réparations. »
Elle hésita.
« J'avais l'intention de rester à l'écart, ma fille. Il serait peut-être mieux que ceux qui me haïssent me croient morte, mais... »« Non !»
coupa Elaine en serrant les mains de sa mère.
« Tout est pour le mieux. Nous devrons simplement nous y prendre avec tact et compétence. »
Morgaz eut un grand sourire.
« Je suis fier de toi. À l'évidence, tu seras une grande reine. »
Elaine dut se forcer à redescendre sur terre. En matière de compliments, Morgaz n'avait jamais été prodigue.
« Mais avant d'aller plus loin, »
fit l'ancienne reine d'un ton hésitant,
« il faut que tu me dises quelque chose. On raconte que Gabriel aurait été... »« Ravine, »
dit Elaine.
« C'est la vérité, mère. Je le hais pour ce qu'il a fait. Je le vois encore, à travers moi, planter des pics dans le cœur de mes amis les plus fidèles et les plus chers. Pourtant, une part de moi-même désire encore sa présence. C'est irrationnel. Il t'a fait subir une coercition. C'est la seule explication. Nous verrons si quelqu'un à la tour blanche est capable d'en débarrasser. »
Morgaz secoua la tête.
Quoi que c'est été, c'est très léger désormais et parfaitement gérable. Et j'ai trouvé quelqu'un d'autre à aimer.
Elaine fronça les sourcils.
Je t'expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas sûr de comprendre moi-même. D'abord, nous devons décider que faire au sujet de mon retour. C'est très facile, le fait est. Oui, mais rien du tout. Tu es revenu parmi nous. La ville et le royaume entier s'en réjouiront. Après, nous te trouverons un poste important. Oui, à condition qu'il m'éloigne de la capitale, où je pourrais te faire de l'ombre. Peut-être, mais j'insiste sur le mot important, parce qu'on ne doit pas croire que tu es en exil.
Elaine fit la moue.
Et si on te confiait la partie occidentale du royaume? Les rapports qui viennent de là-bas ne me disent rien qui vaille.
Deux rivières? Demanda Morgaz.
Et le seigneur Perrin Aybara?
Elaine acquiesça.
Un homme intéressant, cet Aybara,
fit Morgaz pensive.
Oui, là-bas je serai peut-être utile. Lui et moi, on se comprend déjà un peu.
Elaine sembla interloquée.
C'est grâce à lui que je suis ici, ma fille. Un homme honnête et honorable, mais également un rebelle, malgré ses bonnes intentions. Si tu veux te frotter à lui, tu n'auras pas la vie facile.
Je préfère éviter,
avoua Elaine. Le plus simple avec ce type aurait été de l'arrêter et de le faire exécuter. Mais bien entendu, Elaine s'y refuserait, même si certains rapports l'avaient assez énervée pour qu'elle soit tentée.
Eh bien, nous allons devoir établir une stratégie. Pour t'aider à comprendre, je te raconterai ce qui m'est arrivé. À propos, Lini est saine et sauve. Je ne sais pas si tu t'es fait du souci pour elle.
Franchement, non,
avoua Elaine un peu honteuse.
Si le pic du dragon s'écroulait sur elle, je crois que ça ne lui ferait aucun mal.
Morgaz sourit, puis entreprit de raconter son histoire. Elaine écouta, souvent très surprise et en permanence hautement excitée. Sa mère avait survécu, que la lumière en soit louée. Ces derniers temps, tellement de choses avaient mal tourné. Au moins, ça faisait une exception à la règle. La nuit, la tierce terre était silencieuse et paisible. Ici, la plupart des animaux s'activaient au crépuscule et à l'aube, quand il ne faisait ni trop chaud ni trop froid. Les jambes pliées sous elles, Avienda, assise sur une saillie rocheuse, contemplait Ruidehan, la cité qui se dressait sur les terres des Aiel Djen, à savoir la tribu qui n'existait pas. Longtemps, Ruidehan avait été enveloppé d'un brouillard protecteur. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Randaltor. Depuis, il avait détruit la ville de trois façons très violentes et très perturbantes. La première était la plus simple. Rand avait éliminé la brume, la cité apparaissant sans son dôme, comme un Algaïd Siswai qui abaisse son masque. Avienda ignorait comment Rand s'y était pris pour obtenir cette transformation. Très probablement, il ne le savait pas lui-même. Mais en dévoilant la ville, il l'avait altérée pour toujours. La deuxième avait consisté à amener de l'eau à Ruidehan. Désormais, un grand lac s'étendait à côté, et les rayons de lune, filtrés par les nuages, faisaient luire faiblement son onde. Ce lac, les Aiel l'avaient baptisé Tsodrele-Aman, les larmes du dragon. En toute logique, ça aurait dû être les larmes des Aiel, car Randaltor ignorait combien de douleurs ces révélations avaient infligées au peuple du désert. Avec lui, il en allait souvent ainsi. Ses actes étaient tellement innocents. La troisième était la plus profonde. Si profonde, en fait, qu'Avienda commençait seulement à la comprendre. Les propos de Nakomi, devait-elle reconnaître, l'inquiétaient et l'énervaient. En elle, ils avaient éveillé des lambeaux de souvenirs, des bribes d'avenir virtuels qu'elle avait vus au milieu des colonnes de verre, lors de sa première visite à Ruidehan. Des choses que son cerveau ne pouvait pas se rappeler, en tout cas pas directement. L'inquiétude, c'était que Ruidehan n'ait très bientôt plus aucune importance. Jadis, le but de la cité était de montrer aux matriarches et aux chefs de tribu le passé secret des Aiel, afin, bien entendu, de les préparer au jour où ils serviraient le dragon. Ces jours étant venus, quel avenir pour Ruidehan désormais? Envoyer les chefs Aiel au milieu des colonnes leur remettrait à l'esprit un taux qu'ils avaient commencé à assumer. Tout ça perturbait Avienda au point de l'obséder en permanence. Pourtant, elle aurait voulu n'en rien savoir. Son désir, c'était que les traditions se perpétuent, mais pas moyen de bannir les doutes de sa tête. Rand provoquait tant de problèmes. Pourtant, elle l'aimait. En un sens, c'était pour son ignorance, parce que ça le mettait dans la position d'apprendre. Elle l'aimait aussi pour sa façon absurde de vouloir protéger des gens qui ne désiraient pas l'être. Mais par-dessus tout, elle l'aimait pour son envie d'être fort. Elle, c'était son objectif depuis toujours. Apprendre à manier les lances, se battre et gagner du Ji, être la meilleure. En ce moment même, elle sentait le désir de perfection du Karakarn, même s'il était loin d'elle. Sur ce point, il se révélait si semblable. À force de courir, les pieds d'Avienda la mettaient à la torture. Même après les avoir massés avec de la sève de Sagad, il continuait à lui faire mal.
Sur une pierre, à côté d'elle, reposaient ses bottes et les beaux bas de laine que lui avait offert Elaine. Épuisée et assoiffée, elle jeûnerait ce soir, s'abîmant en contemplation. Puis elle remplirait son outre au bord du lac et, demain matin, entrerait à Ruidéan. Pour l'heure, elle ne bougerait pas, méditant afin de se préparer. La vie des Aiel changeait. Accepter une évolution était une preuve de force quand on ne pouvait pas l'éviter. Si une forteresse était endommagée pendant un raid au point qu'on soit obligé de la reconstruire, on ne la refaisait jamais à l'identique. Au contraire, on profitait de l'occasion pour l'améliorer. Les portes qui grincent dans le vent, les lattes de parquet disjointes. Reproduire exactement la même chose aurait été de la folie. Les traditions telles que venir à Ruidéan, voire vivre dans la tierce terre, devraient sans doute être remises en question. Mais pour le moment, les Aiel ne pouvaient pas quitter les terres mouillées. D'abord à cause de l'ultime bataille, mais aussi parce que les Séanchaniens avaient capturé beaucoup d'entre eux et transformé des matriarches en damanes. Une offense qui ne pouvait pas être tolérée. De plus, la Tour Blanche continuait à penser que les matriarches capables de canaliser étaient des naturels. À ce sujet, il faudrait faire quelque chose. Et en ce qui la concernait, elle, plus elle y réfléchissait et moins elle se voyait revenir à sa vie d'avant. Son destin, c'était d'être avec Rand. S'il survivait à l'ultime bataille, et elle lutterait pour qu'il en soit ainsi, il serait toujours un roi des terres mouillées. De plus, il y avait Elaine. Avienda et elle deviendraient des sœurs-épouses, mais Elaine ne voudrait jamais quitter Andorre. Espérait-elle que Rand resterait avec elle? Et dans ce cas, Avienda devrait-elle s'installer à Kaemlyn? Tant de perturbations pour elle comme pour son peuple. Les traditions ne devaient pas être maintenues simplement parce qu'elles étaient les traditions. Sans objectif ni destination, la force n'était plus la force. Avienda étudia Ruidéan, une incroyable merveille de pierre, tellement majestueuse. En général, la corruption des villes lui répugnait, mais Ruidéan était différente. Des dômes, des tours et des monolithes inachevés, des zones d'habitation soigneusement positionnées. Même si beaucoup portaient encore les stigmates de la bataille livrée par Rand, les fontaines coulaient à flot, à présent. Une partie des gravats, par bonheur, avait été éliminée par les familles qui vivaient ici. Des Aiel qui n'étaient pas partis pour la guerre. À Ruidéan, il n'y avait pas de boutiques, pas de disputes dans les rues, ni de meurtriers dans les allées. Même privée de son sens, la ville demeurerait un havre de paix. « Je vais continuer et traverser les colonnes de verre. » Si ses inquiétudes étaient justes, ce rite aurait beaucoup moins de sens. Cela dit, elle était curieuse de découvrir ce que les autres avaient vu. Enfin, connaître le passé était essentiel quand on voulait comprendre l'avenir. Les matriarches et les chefs de tribu venaient ici depuis des siècles, et ils en repartaient lestés de connaissances. Avec un peu de chance, la ville lui montrerait que faire pour son peuple et pour son propre cœur.